Et oui, dans notre région très tournée vers l'espace, qui n'a pas un jour rêvé de devenir astronaute? Eh bien, ce rêve pourrait devenir réalité, car l'Agence spatiale européenne, l'ESA, recrute. Vous pourrez envoyer vos candidatures à partir du 31 mars. Reste à savoir si vous avez le profil et les compétences pour le savoir. J'accueille Didier Schmitt, il est responsable de la stratégie ESA pour l'exploration habitée et robotique de l'espace. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct depuis les Pays-Bas, à l'ESA. Alors Didier Schmitt, avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter un message de l'astronaute Thomas Pesquet.
Bonjour à tous et à toutes. Alors on est dans la dernière ligne droite en ce moment de l'entraînement, avant le décollage pour ma prochaine mission, la deuxième. Et quand je regarde derrière moi, tout le chemin parcouru, c'est fou de se dire que ça fait déjà presque 12 ans que je suis devenu astronaute, à la suite de la dernière campagne de recrutement de l'Agence spatiale européenne en 2008-2009. À l'époque, c'était un ami qui avait lu l'annonce de la sélection d'astronautes dans le journal et qui m'en avait parlé. Alors il avait pensé à moi parce que j'étais pilote à l'époque, j'étais ingénieur avant, donc je correspondais un peu au profil recherché par l'Agence spatiale européenne. Mais si j'étais sélectionné au final, aux côtés de 5 autres Européens parmi des milliers de candidats et de candidates, et bah c'est surtout parce que j'ai tenté ma chance. Ça peut paraître bête, mais l'important, c'est avant tout de ne pas s'auto-censurer, de candidater sans se rabaisser, de croire en soi. C'est le cas de trop de gens qui se censurent et pourtant qui pourraient tout à fait devenir astronautes qui ont toutes les qualités. Alors, n'hésitez pas, inscrivez-vous, même si vous doutez de vous, même si vous pensez qu'il y a meilleur que vous. Allez postuler et rendez-vous à l'entraînement.
Voilà, rendez-vous est pris, Thomas Pesquet. Didier Schmitt, vous recrutez combien d'astronautes dans cette campagne de recrutement?
Alors, la décision finale n'a pas été prise. On va en prendre au moins 4, peut-être 6, donc les astronautes professionnels.
Et alors, vous m'avez dit en préparant cet entretien que vous vous attendiez à recevoir à peu près 10 000 candidatures, hein, c'est ça?
Disons qu'en 2008, on en a reçu 8 000. Je pense qu'on en aura, on va dépasser les 10 000 cette fois-ci, parce qu'on fait quand même une campagne assez médiatique, assez large. Et je pense que c'est le bon moment, en tout cas en France, en tout cas, avec Thomas Pesquet, qu'on vient d'entendre, ouais. pour avoir une émulation.
Alors, on va faire un petit point de vocabulaire au passage. On parle d'astronaute, de spationaute, de cosmonaute. Quel est le bon vocabulaire que je dois employer?
Alors, les cosmonautes, c'est du côté russe. Les spationautes, c'est comme ça qu'on appelait les Français à l'époque, quand ils volaient avec les Russes. Les astronautes sont américains et maintenant il y aura les taïkonautes qui sont chinois. Donc en Europe on dit astronaute.
En Europe on dit astronaute. Alors va pour astronaute. Didier Schmitt, la dernière campagne de recrutement de l'Agence spatiale européenne remonte à il y a plus de 10 ans. Hein. Ça signifie donc que celle-là, il faut pas la rater. Pourquoi est-ce que c'est si rare?
Bah écoutez, le problème c'est qu'effectivement on n'en a pas énormément, on a actuellement 6 astronautes plus 1 qui a été recruté il y a quelques années. C'est rare parce que si vous voulez, nous négocions les vols avec les Américains, on a à peu près un vol de longue durée, donc de 6 mois tous les 18 mois, bah, ce qui fait que bah, y a pas énormément de vols sur une dizaine d'années. Hein. Donc on essaie de faire voler les astronautes qu'on recrute deux fois.
Ah oui.
Trois fois, c'est déjà un petit peu, ça arrive, mais c'est pas toujours le cas. Donc on veut qu'il y ait un maximum d'astronautes quand même, mais qu'ils ne volent pas qu'une fois.
Les besoins sont pas si nombreux. Alors, on est ensemble pour s'atteler à savoir si vous qui nous écoutez, vous avez le profil pour devenir astronaute. Didier Schmitt, j'ai un peu cherché. Vous savez qu'en France, on est en plein dans Parcoursup. Hein. J'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé d'école post-bac qui forme au métier d'astronaute. Comment est-ce qu'on embrasse une telle carrière et qui peut y prétendre?
Alors c'est sûr qu'on va pas faire des écoles de formation pour en sélectionner un tous les 10 ans.
Eh oui.
Alors si vous voulez, c'est très simple. Nos critères sont il faut un niveau master, donc plus 4 plus 5 et 3 années d'expérience professionnelle. Donc ça c'est déjà le niveau entre guillemets intellectuel d'entrée qui n'est pas formidable. Hein, je veux dire c'est.
Non.
On a des centaines, des milliers, enfin des dizaines de milliers de personnes dans ce cas-là en France, oui.
Alors, niveau master et quelques années professionnelles, ça veut dire que moi, j'ai fait des études de lettres, par exemple, je peux prétendre à devenir astronaute?
Oui, après, si vous voulez, il y a quand même le travail d'un astronaute, il est quand même extrêmement technique, donc il vaut mieux avoir un diplôme plus technique quand même.
Ah d'accord, donc plutôt scientifique. Thomas Pesquet, dans la petite interview qu'on a entendue, disait qu'il était pilote avant de devenir astronaute. Je crois que Claudie Aigneret, elle, était médecin. Il faut donc avoir exercé un travail. Il n'y a pas d'âge limite pour faire acte de candidature et puis après pour aller dans l'espace?
Alors s'il y a un âge limite, si vous voulez, comme l'entraînement dure au minimum 4 ans et des fois même jusqu'à attendre jusqu'à 10 ans pour avoir le premier vol, et ensuite voler deux fois entre deux vols, il se passe pas mal d'années. Donc on a mis un âge limite à 50 ans parce que sinon on arrive vite à 65 ans. Et après il y a des problèmes médicaux qui peuvent apparaître, etc. Donc c'est 50 ans l'âge maximal.
50 ans l'âge maximal pour prétendre faire ce dossier de candidature. Donc vous allez les prendre ces dossiers à partir du 31 mars. Donc on a compris qu'il ne faut pas nécessairement avoir un bagage d'études ébouriffant. En revanche, ce sont probablement des critères physiques peut-être et puis psychologiques que vous allez tester. Comment faites-vous hein?
Oui, alors il faut dire d'emblée qu'on ne cherche pas Superman et Superwoman, ça c'est clair. On cherche des gens très bien équilibrés et qui arrivent à gérer le stress. Hein. Ça, c'est la partie la plus importante. L'aspect médical, donc dans le dossier, il faudra absolument avoir un certificat d'aptitude médicale au vol privé, donc de pilote privé, sans forcément avoir un diplôme de pilote. Donc ça, c'est pas nécessaire. Mais il faut avoir cette aptitude médicale minimale d'entrée.
Et ça valide quoi?
Ça, si vous voulez, ça valide déjà le fait que les gens n'ont pas de problèmes médicaux apparents importants. Parce que sinon, si vous voulez, si on ne met pas de critères médicaux d'emblée dans le dossier, on aurait des centaines de milliers de candidatures. Hein, donc ça, déjà, c'est une...
Ah oui, ça va limiter les candidatures. Vous nous dites, hein, des personnes équilibrées, pas forcément des superwomen et des super héros. Est-ce qu'il faut également, j'essaye de cerner et de voir si je suis un peu dans le profil, hein, plutôt un homme, plutôt célibataire, hein?
Alors, non, pas plutôt. Alors, les hommes et les femmes ont exactement les mêmes chances. En 2008-2009, nous avions 15% de femmes candidates, et à la fin, il y avait 15% de femmes sélectionnées, c'est-à-dire une sur six. Donc ça veut dire, s'il y a 50% de femmes cette fois-ci, vraiment on l'espère, parce que ça se fait vraiment bien, et ben il y aura 50% de femmes. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que le processus de sélection n'élimine pas plus les femmes ni les hommes. On a une équivalence à ce niveau-là. Donc ça c'est bien
à souligner. Et alors il faut souligner aussi, on n'en a pas parlé, cette petite nouveauté que vous allez introduire cette année, Didier Schmitt. Hein. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que vous êtes le responsable de la stratégie ESA pour l'exploration habitée et robotique. On parle ensemble du plan de recrutement de l'ESA pour devenir astronaute. Cette année, petite nouveauté, vous allez essayer de faire voler des astronautes avec un handicap physique.
Oui, alors ça c'est effectivement une nouveauté, c'est un projet donc qu'on va démarrer. On ouvre donc la sélection en même temps à des astronautes qui ont un handicap physique, donc qui sera bien défini dans le... on ne peut pas avoir n'importe quel handicap, hein, évidemment, il faut qu'il soit déjà un handicap moteur et pas mental. Oui, donc on va essayer de faire ça parce qu'on pense qu'effectivement, les gens avec qui ont des handicaps physiques, ils s'intègrent parfaitement dans la société, dans le milieu du travail, etc. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'essaye pas de les intégrer dans le domaine du spatial et donc au plus haut niveau, c'est-à-dire pour devenir astronaute. Alors on ne promet rien, on va essayer de voir tout ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes techniques, hein, parce qu'il y a des problèmes évidemment de sécurité au décollage, à l'atterrissage, etc. Et en vol, il faut aussi que les personnes puissent faire leur travail. Hein. Un astronaute ne vole pas pour ne rien faire là-haut dans la Station Spatiale Internationale.
Alors une fois que j'ai à peu près validé tous ces critères et que je vous ai adressé mon dossier, donc à partir du 31 mars et ce jusqu'à la fin du mois de mai, dossier qui est à envoyer sur le site de l'ESA Carrière, il va se passer une autre phase, hein, c'est la sélection à proprement dite des dossiers. En quoi cette phase va consister, Didier Schmitt?
Oui, alors, avant de répondre à cette question, je voudrais dire qu'une autre nouveauté, on va recruter des astronautes réserves aussi. C'est-à-dire que c'est des personnes qu'on va recruter, mais pas employées par l'ESA, au cas où d'autres vols puissent se libérer au niveau commercial, etc. Voilà, donc on pourrait même aller jusqu'à une vingtaine de réserves. Alors, comment ça va se passer pour la sélection? Il y a plusieurs phases. Alors, les premières phases, c'est vraiment des phases psychotechniques et de personnalité. Une deuxième phase, donc, pareil, de tests psychologiques, mais plus orienté vers comment les gens vont se comporter dans un environnement avec plusieurs personnes en milieu de stress, etc. D'ailleurs, plusieurs de ces phases de sélection vont se faire à Toulouse. Il n'y a que deux endroits où on fait des sélections, c'est Toulouse, Hambourg et donc en Allemagne. Et puis aussi,
c'est un signe, ça.
À Cologne, absolument. Oui. Donc à la clinique spatiale à Rangueil.
Donc on fait des tests, on teste, vous nous avez dit, leur psychisme, leur résistance au stress. Et puis après, dans une autre phase, m'avez-vous dit, il y a des entretiens. Et ça, c'est intéressant parce que non seulement vous testez les capacités techniques, les capacités intellectuelles et puis de résistance au stress, mais également la capacité des candidats à savoir répondre et notamment à faire des interviews face à la presse.
Oui, ça c'est très important puisque ben, vous voyez très bien avec Thomas Pesquet, l'aspect médiatique est extrêmement important hein, pour ces gens-là. Et bon, les entretiens, c'est aussi là essentiellement pour voir la motivation des personnes. Hein. Donc on va un peu tout regarder. Donc ça c'est un screening qui se fait pareil en deux fois. Il y a deux entretiens majeurs. Et l'étape finale, alors avant cela, donc une fois qu'on a sélectionné une centaine à peu près de personnes, après, vous savez, vers la fin, ils sont tous à peu près équivalents.
Et oui.
Après, on vérifie simplement au niveau médical qu'ils respectent les critères internationaux donc qu'on a convenus avec nos partenaires internationaux du point de vue médical. Mmh. On ne cherche pas le meilleur dans le domaine médical, ça ne sert à rien. On cherche simplement à savoir s'il n'y a pas de problème majeur, parce que si on investit sur un astronaute pendant des années, vous comprenez bien qu'on ne va pas se rendre compte au bout de 2, 3, 4 ans qu'il a un petit souci médical et qu'il faut l'éliminer. Donc, voilà.
À quel moment je retrouve Thomas Pesquet à l'entraînement, moi ? Quand est-ce que commence la formation à proprement parler ?
La formation commence après la sélection du directeur général, qui lui aura le dernier mot. Et donc, tout de suite après, ça démarre. Donc, il y a une phase d'entraînement en Europe, donc à Cologne, au centre d'entraînement des astronautes, qui va durer 6 mois, un peu plus. Donc l'entraînement de base, et ensuite il y a plusieurs niveaux d'entraînement, donc sur 3 ans, 4 ans, jusqu'à évidemment aussi s'entraîner aux sorties extravéhiculaires. Et ensuite, il y a une deuxième phase, une fois que la personne est sélectionnée pour un incrément, on appelle ça un incrément pour la station spatiale, donc il est de 6 mois en général, mais ça peut être un peu plus court. Et bien là, il y a un entraînement très spécifique pour cet incrément-là, parce qu'il y a des expériences très spécifiques, des tâches très spécifiques à faire pendant cet incrément. Et là, il y aura encore un an et demi, d'entraînement supplémentaire rien que pour cette phase de vol.
Oui, donc c'est un peu le parcours du combattant. Alors c'est intéressant, Didier Schmidt, parce que ça fait presque un quart d'heure qu'on se parle et qu'on n'a pas parlé du job à proprement parler d'astronaute. On a évalué toutes les compétences et toutes les aptitudes qu'il fallait pour prétendre à aller dans l'espace, mais en quoi va consister son job une fois sur place ?
Le job, c'est un petit peu, si vous voulez, il faut regarder la vie dans l'espace, hein, parce que passer 6 mois dans l'espace, c'est pas rien. C'est un peu comme la vie chez vous, si vous étiez enfermé chez vous. La moitié du temps, vous allez faire la cuisine, vous allez réparer la chaudière, etc. Donc ça, il faut s'occuper de la station spatiale, hein, qui vieillit aussi, et puis il y a des changements à faire. Par exemple, là, on va changer les panneaux solaires. Donc ça veut dire qu'il faut sortir dans le jardin avec un scaphandre extracirculaire, aller faire des réparations de tuyauterie, etc.
C'est le plombier du ciel, en fait. Hein.
Pardon ?
C'est le plombier du ciel.
Oui, tout à fait. Et du ciel très, très éloigné.
Ouais.
Alors, et l'autre partie, donc, la plupart du temps, on espère, plus de la moitié du temps, dès qu'il y a les possibilités, donc c'est faire participer aux recherches biomédicales, technologiques. Il y a énormément de programmes donc scientifiques à bord, y compris être cobaye soi-même sur les expériences médicales.
Alors, à partir du moment où on se retrouve avec Thomas Pesquet à la formation qui commence, on n'est plus très très nombreux. Quelle chance on a de finir par avoir cette chance qu'a eu Thomas Pesquet de partir dans l'espace ?
Alors, toutes les 4 à 6 astronautes qu'on va sélectionner, ils ont tous la garantie de voler 2 fois. Hein, ça, c'est ce qu'on se met comme objectif. On espère qu'il n'y a pas d'accident, qu'il n'y a pas de problème, si vous voulez, de médicaux qu'on n'a pas vu ou des accidents physiques. Hein, ça peut arriver aussi. Donc on fait très attention à nos astronautes et eux-mêmes font très attention d'ailleurs. Et donc, ils ont tous la garantie de voler. Donc, ceux-là vont voler d'abord dans la Station Spatiale Internationale. Et ensuite, nous avons donc un grand programme avec les Américains, donc Station Spatiale autour de la Lune. Nous sommes partenaires à 50% de cette station du point de vue construction des modules. Et donc, dans une deuxième phase, alors, on a déjà négocié 3 vols hein, pour cette station à partir de 2025-2026. Par contre, là, les premiers vols autour de la Lune, ce seront les astronautes actuels. Hein. Ceux qu'on va recruter maintenant vont d'abord faire au moins un vol sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale, sûrement un deuxième, et ensuite, éventuellement, donc, autour de la Lune. Et on va négocier très certainement, d'ici quelques semaines, voire au maximum quelques mois, on va démarrer les négociations avec la NASA pour avoir un astronaute européen sur la Lune.
Et dernière question, Didier Schmidt, un astronaute qui ne part plus, il fait quoi ? C'est quoi le job d'astronaute à Terre ?
Il nous aide dans nos programmes pour préparer les programmes futurs, par exemple les astronautes actuels, moi j'en ai un dans mon équipe, qui m'aide à réfléchir sur l'avenir, à travailler avec les ingénieurs pour justement la station spatiale circumlunaire, pour aider les ingénieurs à développer cette station, le module d'habitation en particulier qu'on va fabriquer en Europe. Donc il nous aide à dans les équipes à donner des conseils, à vérifier des choses, à faire des revues, etc. Voilà.
Un grand merci pour toutes ces explications, Didier Schmidt. On en sait un peu plus. Je ne sais pas si j'ai le profil, mais ça fait tout de même rêver. Et vous qui nous écoutez, vous avez, c'est à partir du 31 mars et jusqu'au 28 mai que vous pouvez envoyer votre dossier de candidature à l'ESA. Il faut aller sur le site de l'ESA Carir, C-A-R-E-E-R. Et puis faites ce dossier. Il faut rêver, comme nous y a appelé Thomas Pesquet. Un immense merci à vous.
Merci, au revoir.